C'est mieux? J'espère que vous avez des questions, hein, sinon on va vous poser des questions pendant cette étude biblique. Hein. On se posait la question avec les responsables de retour à une forme de catéchisme. Mais pas traditionnel, mais ceci dit, dans le contenu, il y a un contenu extraordinaire. Et peut-être que parfois on manque de ces contenus-là que l'Église nous a laissés au fur et à mesure des siècles. Et le catéchisme, normalement, c'est pour les enfants. Mais je peux vous dire que les questions, elles sont costauds. Elles sont vraiment costauds. Donc on vous posera des questions, faites attention. Par exemple, du style. Pourquoi a-t-il fallu que Jésus soit Dieu? Que Dieu vienne mourir sur la croix? C'est une question pour les enfants. Je ne demande pas la réponse, les grands. Vous pourrez venir me donner la réponse après. Je peux vous dire que j'y ai réfléchi un moment. C'est pas si simple. Le message de ce matin, je voudrais l'adresser particulièrement à ceux qui peut-être traversent la mort dans la famille, ceux qui se battent avec une maladie qui peut conduire à la mort ou qui souffrent de manière particulière. Je voulais dire que la parole de Dieu, c'est ça qui est la vérité. Et je voulais dire que c'est une grande espérance dans tout ça. C'est vraiment, vraiment une grande espérance. Et on va le voir ce matin. On va le voir ce matin. Et je veux vraiment encore nous encourager. Plongeons les regards dans la parole de Dieu. Peut-être qu'on ne le fait pas assez. Je veux nous encourager à le faire encore et encore. Plus vous allez passer du temps dans la parole de Dieu, plus vous allez vous rendre compte combien vous avez besoin de passer du temps dans la parole de Dieu. Et à l'inverse, moins vous passerez du temps dans la parole de Dieu, et plus ça vous paraîtra secondaire quand j'ai le temps. Alors, passons du temps dans la parole de Dieu. Il y a un virus qui va vous piquer, et vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Vous allez devenir des passionnés de la Bible. On va commencer par lire un texte. Alors, le message de ce matin, nous oriente pour dans 15 jours. On va parler de l'ascension de Jésus. On va parler de son ascension. Avant, ce n'était pas forcément un thème où je me disais, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais en fait, il y a énormément à dire sur juste ce fait, ce que Jésus a fait. On va ouvrir le livre des Actes, acte 1, et on va lire du verset 1 au verset 11. Normalement, il est affiché. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, ce sera probablement le message dans 15 jours, dans 3 semaines, sur la Pentecôte. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous ?» viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » On peut rajouter un petit morceau à ce texte, un morceau qu'on va trouver dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, versets 19 et 20, où il est dit « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. » Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, comme je l'ai dit en introduction, dans deux semaines, nous allons célébrer l'Ascension. Et avant d'être un jour férié, un long pont, l'Ascension est un événement vraiment important et significatif de l'œuvre de Jésus et pour la vie du chrétien. L'ascension de Jésus, en théologie systématique, fait partie d'un processus qu'on appelle l'exaltation. Alors, je ne dis pas cela pour étaler ma culture, parce que j'en ai pas beaucoup, mais pour avoir en tête que l'ascension de notre Seigneur fait partie d'un processus qui amène Jésus du degré suprême de son humiliation, comme ça a été prié ce matin. Il est descendu du ciel, c'est ça son humiliation. Il a pris une forme d'homme, il s'est dépouillé de la gloire céleste, il s'est fait simple homme, a souffert et a enduré la croix. Et ça l'amène de cet état-là d'humiliation vers le retour, un retour vers le degré suprême de sa glorification, assis à la droite du Père. Et donc, ce processus se fait en trois étapes. La première, c'est la résurrection. La deuxième, c'est l'ascension. Et la troisième, ce sera son avènement, sa parution, sa parousie, ou encore son apocalypse. C'est les mots employés dans la Bible. On utilise souvent le mot « le retour de Jésus », mais en fait, il est absent de la Bible. Il n'y a pas de retour de Jésus, il y a une parousie, il y a un avènement de Christ. Bien sûr, on sous-entend qu'il revient. Avant de monter, Jésus est donc d'abord ressuscité. Et il est ressuscité dans un corps. Ce sera le premier point de ce matin. Ce corps, il est glorifié. Il a de nouvelles propriétés. Il peut apparaître et disparaître. Un peu comme les anges dans le texte qu'on a lu. Ils sont apparus. On ne les voyait pas et d'un coup, on les voit. Alors, certains pensent que les corps glorifiés vont pouvoir traverser les murs. D'autres vont dire non, simplement, on les voit ou on ne les voit pas. Il y a cette propriété, en tout cas, qui se manifeste avec Jésus. Mais c'est bien un corps humain. D'accord ? C'est bien un corps humain. Jésus est ressuscité dans un corps humain. C'est bien, et c'est cela qui est manifesté au travers de sa nature humaine. En effet, Jésus, dans sa nature divine, est resté immuable. Alors, c'est encore un gros mot, mais ça veut dire sans changement. La Bible va dire sans ombre de variation. Jésus, dans sa nature divine, ne pouvait pas mourir. Il a fallu qu'il endosse une seconde nature humaine pour qu'il puisse mourir et qu'il devienne alors victime expiatoire. Nous faisons donc bien face à un Jésus revêtu d'un corps humain qui ressuscite dans un corps glorifié et qui inaugure une humanité nouvelle ou renouvelée. En tant que nouvel Adam, Paul va nous dire, le dernier Adam, en tant que premier-né d'entre les morts. Alors pourquoi est-ce que cela est important à comprendre? Eh bien, pour les non-croyants, tout d'abord, je pense que c'est le signe qui atteste de la véracité de l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Ce sont les signes qui montrent que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi? Parce que lui seul a vaincu la mort. Et le suivre signifie aller auprès du Père. Si ce matin, il y en a dans la salle qui n'ont pas encore fait cette démarche de demander à Dieu de venir les sauver, de demander pardon à Jésus pour leurs péchés, mais je vous invite à le faire parce que Jésus est vraiment la vérité et le chemin qui va t'amener auprès du Père. Pour nous, les croyants, eh bien, la résurrection dans un corps et l'ascension de Jésus-Christ sont au moins deux signes de l'espérance glorieuse qui nous attend. La première, c'est que nous serons aussi revêtus. Amen. Nous serons aussi revêtus. Dans 1 Jean 3, il est dit... Ah. Si, c'est affiché. Bon, je vous le lis. Bien-aimés, oups. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà la promesse. Nous serons semblables à lui. Ça veut dire quoi ? Nous aurons aussi un corps glorifié. Et Paul dira que nous ressusciterons incorruptibles, glorieux et pleins de force. Waouh ! Waouh ! Nous ressusciterons avec un corps semblable à celui du Maître. Un corps sans défaut et sans tâche. Un corps sans handicap. Bernard et Christine qui vont être contents. Un corps sans maladie. Waouh ! Arrêtons-nous sur ça. Un corps sans maladie. Un corps sans douleur. Waouh ! Un corps sans fatigue. Paul nous dit plein de force. Combien nous nous réjouissons aujourd'hui quand nous voyons un frère ou une sœur que le Seigneur touche et qui est guéri dans son corps mortel. Eh bien, vous savez quoi ? Ce ne sont que les arts. Ce n'est qu'un aperçu de ce qui nous attend. Combien nous allons nous réjouir quand nous allons être revêtus du corps glorifié. Waouh ! Waouh ! Et l'ascension nous atteste ça, qu'un jour, nous allons recevoir un corps glorifié. La deuxième chose, c'est que l'humanité peut enfin accéder au ciel. Et comment on en est sûr de ça ? Eh bien, parce que c'est Jésus qui l'a inauguré. Jésus en tant qu'homme, mes amis, et pas en tant que Dieu, en tant qu'homme, c'est pas très juste ce que je viens de dire, mais Jésus en tant qu'homme est entré et a fait entrer l'humanité dans le ciel. Et en fait, vous savez quoi ? C'était la première fois. C'est la première fois de l'histoire qu'un homme entre dans le ciel. Marc 16, on l'a lu. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Lui, la tête située au ciel, nous garantit à nous son corps, l'accès auprès de lui dans le ciel et donc auprès du Père et du Saint-Esprit. Et au moment où Jésus rentre dans le ciel, eh bien, je me suis posé la question et je me suis dit, mais il aurait très, très bien pu, comme il avait fait à la résurrection, disparaître. Hop ! Et on ne le voyait pas. Mais non, il a voulu que nous le voyions au travers du récit de Luc, de Marc, que nous le voyons remonter et entrer dans le ciel. Pourquoi ? Parce qu'en partant aussi, il nous montre encore le chemin. Il atteste que l'humanité va le suivre et qu'elle peut enfin accéder au ciel, à la présence pleine de Dieu. Si nous le suivons aujourd'hui dans notre corps mortel, nous le suivrons aussi à la résurrection des morts, mais cette fois-ci, semblable à lui, c'est-à-dire dans des corps glorifiés. Petite parenthèse, si on va jusqu'à la fin du livre de la Bible, de l'Apocalypse, eh bien, on va s'apercevoir que, en fait, il va y avoir une légère inversion au moment de l'avènement du Seigneur, et c'est le ciel qui va descendre. Mais c'est un autre sujet. Par son ascension, Jésus attire nos regards vers le ciel et nous montre désormais où est notre place et ce à quoi nous devons consacrer notre vie, étant encore revêtus de nos corps de chair qui sont mortels. Dans Colossiens 3, on peut lire versets 1 à 4. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ paraîtra, votre vie, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Regarder Jésus monter au ciel nous fait prendre conscience que ce qui est important pour nos vies, c'est là-haut. D'accord ? Notre patrie, elle n'est plus sur la terre, elle est dans le ciel. Et tout ce que nous vivons, nous devons le vivre en accord avec le ciel. Et la dernière chose que je voudrais qu'on regarde ensemble par rapport à ce sujet-là, et qu'on va s'y attarder un petit peu ce matin, c'est que le fait qu'il soit monté, eh bien, ça implique quoi ? Eh bien, c'est qu'il n'est plus là. Et c'est ce qu'on appelle l'absence. L'absence de Jésus. 2 Corinthiens 5, versets 6 et 7. Ah, mais c'est bien, c'est affiché. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, eh bien, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps. Pourquoi ? Pour demeurer auprès du Seigneur. Rappelons-nous que Jésus est ressuscité dans un corps. Là, je suis sûr qu'il y a une petite question qui vous taraude. Jésus est ressuscité dans un corps. Et donc, ce corps, puisque c'est un corps, il est localisable. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Donc, s'il est en haut, il n'est pas ici. Et Paul nous dit bien, nous demeurons loin du Seigneur. Mais alors, il est où, Jésus ? On va lire un peu de catéchisme. Celui-là, il est d'Edelberg, c'est une ville, probablement en Allemagne. C'est les réformés. Il y a une question qui dit, qu'entends-tu par ces mots ? Il est monté au ciel. La réponse, c'est que le Christ a été élevé aux yeux de ses disciples, de la terre au ciel. Là, il est présent pour notre bien, jusqu'à son retour pour juger les vivants et les morts. Et bien sûr, ça c'était la question numéro 46. Et la question numéro 47, c'est... Je suis sûr que vous l'avez, cette question-là. Tu peux la mettre, la question ? Ah. C'est une objection. Le Christ n'est-il donc pas avec nous jusqu'à la fin du monde, comme il l'a promis ? Moi, j'ai lu Matthieu avant Luc, hein. Tu m'auras pas. Eh bien, il y a une réponse. Là, il faut suivre. Hein. Le Christ est vrai homme et vrai Dieu. En sa nature humaine, il n'est plus maintenant sur la terre. Mais par sa divinité, sa majesté, sa grâce et son esprit, il ne s'éloigne jamais de nous. Ainsi, il est juste de dire que Christ est absent de la terre par sa nature humaine. Mais il est présent à côté de nous et même en nous par sa nature divine. Et donc, quand on prend en compte l'ensemble des données bibliques, on conclut deux choses. Jésus est présent par son esprit qui nous unit en lui, et c'est spirituellement qu'il est présent et qu'il fait sa demeure en nous. Et la deuxième chose, c'est Jésus est absent par son humanité et il est hors de portée de notre vue, il est au ciel. C'est bon, vous êtes toujours avec moi ? Ça nous dépasse. Mais je vous rassure, moi aussi je suis dépassé. Hein. Mais c'est ça. La Bible dit ça. Et il est dangereux de lui faire dire autre chose. D'accord ? Et quand on ne comprend pas quelque chose dans la Bible, spécialement quand on nous parle de Dieu, il faut juste dire « Oui Seigneur, je le crois ». Vous comprenez que c'est normal qu'on ne comprenne pas Dieu ? Oui ? Parce que sinon Dieu ne serait plus Dieu. Le jour où tu arrives à faire rentrer Dieu entre ces deux oreilles-là, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Mais si tu restes abasourdi à dire « Je comprends rien, Seigneur. » Là, tu es en train de parler de Dieu. C'est bien. Alors, on a dit que Jésus était localisable, qu'il était dans un corps, donc on a une question, non ? Mais il est où ? Il est où ? La Bible donne une réponse. Il est où ? Au ciel. Il n'y a qu'à lever la tête. Mais ce n'est pas le ciel des oiseaux, ni des avions. Ce n'est pas non plus le ciel de Salomon, vous savez, quand il dit « les cieux des cieux ». Ce n'est pas le ciel des étoiles, des astronautes, cet univers qu'on essaye d'explorer et dont on explore quasiment rien, mais on a des super grandes théories. Ce n'est même pas celui-là. Ces deux cieux ne sont pas le ciel où se trouve Jésus. La Bible nous parle d'un troisième ciel. 2 Corinthiens 12, verset 2. « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. » Vous avez bien compris que là, il est en train de parler de Dieu parce que même lui, il ne sait pas. Et je sais que cet homme, il le reprécise au cas où on n'aurait pas bien compris, si ce fut dans son corps ou sans son corps, j'en sais rien, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. On peut rapprocher ce texte de 1 Timothée 6, verset 16. Il parlait de Jésus, du Seigneur, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Jésus, n'est donc pas allé au fin fond de l'univers, mais au ciel, au troisième ciel, c'est-à-dire le lieu où la gloire de Dieu rayonne le plus immédiatement. Waouh ! Il y a quelqu'un qui a prié par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui a parlé de la lumière ce matin, inaccessible. Mais oui, c'est ça. C'est exactement ce lieu-là. Et dans ces textes, on comprend bien qu'on est au ciel. Parce que moi, j'ai une question. C'est quoi des paroles ineffables ? Vous m'expliquerez après, s'il vous plaît. C'est quoi une lumière qu'on ne peut pas voir ? Je veux bien des explications. Là, on sait qu'on est au ciel. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu tous nos repères. Là, on est avec Dieu. Waouh ! Waouh ! La Bible, elle est extraordinaire. Et quand vous lisez Ézéchiel et ses chariots de feu, avec des roues, avec des yeux qui tournent, comme ça, comme ça, comme ça, ben on ne sait pas où on est. Enfin, si vous y arrivez, vous êtes fort. Mais moi, je suis perdu. Eh bien, on est juste au ciel et on observe le Seigneur. Et on dit « Amen, tu es beau Seigneur », même si on ne comprend rien. Amen Seigneur. Merci pour ta parole extraordinaire. Merci pour cette grâce que tu nous fais de nous parler de toi Seigneur, avec des mots humains, avec des mots que l'on peut comprendre Seigneur. Je bénis ton nom pour cela. Je bénis ton nom. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de cette absence ce matin de Jésus ? J'ai noté juste deux incidences de cette absence. La première, c'est que notre espérance, elle est waouh, là-haut. La première, c'est que l'on peut se dire qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Être dans notre corps mortel, loin du Seigneur, c'est pas top, non ? Il y a quelque chose de mieux. C'est être loin de ce corps mortel et près du Seigneur. Et il y a quelque chose d'encore meilleur. C'est être dans un corps glorifié, incorruptible et proche de notre Seigneur. Ça, c'est la première incidence. Il y a quelque chose de mieux qui nous attend. La seconde, c'est que l'absence de Christ, corporel, eh bien, ça devient le fondement de la mission de l'Église. L'Église est en mission parce que Jésus est au ciel. Christ n'est plus là avec son corps et la conséquence immédiate, c'est que nous sommes missionnés pour être ses témoins et ses ambassadeurs. Et c'est rigolo comme dans le texte, le lien est immédiat. On a lu Marc 16, il est dit « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher la parole. » Christ remonte et son corps va prêcher la parole. 2 Corinthiens 5, 19 à 20, il est dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. En Christ, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. » Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? « Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Il a réconcilié le monde et maintenant c'est à nous d'aller réconcilier. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Quand la Bible fait mention que nous sommes le corps de Christ, eh bien, il faut bien comprendre que c'est plus qu'une légère métaphore. C'est plus qu'une image. Et la doctrine de l'absence de Christ nous aide à le saisir un petit peu plus. Alors qu'il est au ciel, qu'il intercède en notre faveur, il continue d'appeler nos frères et nos sœurs qui ne le connaissent pas encore, qui ne sont pas encore sauvés, et il les appelle à être réconciliés avec le Père. Et comment il le fait ? Eh bien, par notre bouche. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il le fait par nos mains, parfois par nos larmes, par tout l'amour qu'il nous donne de répandre abondamment. Amen. J'espère que ça vous plonge dans une dimension un peu plus grande de ce que c'est que le corps de Christ. Nous sommes son corps, réellement, sur la terre. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Tu peux te tourner vers ton frère et lui dire, je pense. Tu es le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ ensemble, chacun pour sa part. Personne ne peut se cacher. Chacun pour sa part. Amen. Du coup, nous sommes tous mandatés, missionnés, envoyés, chacun pour sa part. En conclusion, je dirais que l'ascension de Jésus et son entrée dans le ciel sont pour nous le gage que tout est accompli. Ça y est. En lui, l'humanité peut enfin être reçue au ciel. Ne vous endormez pas. C'est juste génial. Jésus, en tant qu'homme, a déjà inauguré ce fait. C'est déjà fait. Il est déjà entré dans le ciel. En lui, nous avons désormais un libre accès auprès du Père. En Christ, nous sommes devenus saints et irrépréhensibles. Et nous serons revêtus d'un corps comme le sien, incorruptible. Waouh ! En Jésus, nous avons reçu le sceau du Saint-Esprit, gage de notre héritage à venir, mais aussi puissance de Dieu aujourd'hui, afin que nous allions, nous, le corps de Christ, faire de toutes les nations des disciples. Amen. Je voudrais vous inviter à vous lever, on va prier. Seigneur, alors que nous plongeons les regards dans ce texte de Luc, Seigneur, on veut monter nos yeux vers le ciel. On veut vivre cet instant, Seigneur, où on te voit rentrer dans le ciel. Merci de nous rendre participants de cet événement, Seigneur. 2000 ans après, on peut être témoin que oui, tu es monté au ciel, Seigneur. Merci parce que tu nous as fait entrer avec toi, Seigneur, dans le ciel. C'est déjà fait, Seigneur. C'est déjà accompli. Seigneur, alors que dans nos corps mortels, nous bataillons, Seigneur. C'est dur parfois, parce que nous ne le voyons pas encore, Seigneur, que nous sommes déjà avec toi dans le ciel, Seigneur. Mais un jour, Seigneur, nous le verrons quand tu reviendras, Seigneur, quand tu paraîtras comme l'éclat du soleil, Seigneur, dans le ciel. Alors, nous le verrons, Seigneur. Alors, nous recevrons un corps glorifié comme le tien. Mais en attendant, Seigneur, nous voulons être ton corps sur cette terre, Seigneur. Nous voulons être ces témoins et ces ambassadeurs de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons consacrer nos vies à être témoins de ton évangile. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen.